L'âge bête sur RCN.
Bonjour à tous, merci de nous écouter sur RCN. Nous sommes le 16 avril, vous écoutez L'âge bête. Cette semaine, toute l'équipe du lycée Marquette est en vacances. Alors on vous propose un best-of des émissions précédentes que vous avez peut-être ratées. Au programme aujourd'hui, on va parler des expressions françaises avec Lucie. On reparlera aussi gastronomie avec les plats typiques dans le monde. Louise nous racontera la légende de l'Atlantide. Et nous aurons bien sûr le quiz des cultures générales avec Antonin d'ici la fin de l'émission. Voilà le programme, merci d'écouter RCN, on est ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Pour commencer cette émission, on parle expression française avec Lucie.
RCN, l'âge bête.
Trois expressions, donc pour commencer, est-ce que vous connaissez l'expression « donner de la confiture au cochon »
Oui, de nom.
Oui, j'ai déjà entendu, mais...
Est-ce que vous savez à peu près ce que ça veut dire ou pas du tout?
Bah, c'est appâter les gens, non?
C'est quand tu donnes une trop bonne chose pour la personne.
Voilà. Ah. Donc elle date du 19e siècle et précisément de 1843.
C'est précis.
J'ai eu la date précise, je suis contente. Donc cette expression, elle signifie donner quelque chose de valeur à quelqu'un qui ne saura pas l'apprécier à sa juste valeur. D'où le cochon qui mange absolument tout.
Donc on lui donne pas de la confiture.
Voilà. Donc elle vient de l'ancienne expression « ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ». Alors les pourceaux, c'est un vieux mot, un mot du vieux français pour dire cochon aussi. Donc vraiment, okay. C'est un synonyme. Les pourceaux, ou du coup les cochons, ils symbolisent ceux qui ne savent pas apprécier la vraie valeur des choses, vu qu'ils mangent absolument tout ce qu'on peut leur donner, que ce soit de la salade ou même du métal, je suis sûre qu'ils le mangeraient.
T'es dans la bulle, je pense, un petit peu.
Je sais pas, mais je pense, peut-être. Donc, et la perle, elle a été remplacée par la confiture. Car à cette époque, la confiture, elle prenait de l'ampleur par rapport aux perles qui étaient là en permanence, on les voyait tout le temps. Alors que la confiture, elle était un peu nouvelle, elle venait d'apparaître, on va dire.
Et c'était rare à l'époque, il fallait du sucre pour faire
c'est
la confiture.
C'est ce que j'allais dire. Le sucre, il coûtait cher et donc c'est pour ça que c'était, ça avait de la valeur. Donc voilà.
D'accord. Donc, on a une deuxième.
Voilà, la deuxième. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « être le dindon de la farce ».
Oui, c'est connu.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ou d'où elle provient?
Par contre, non.
Être la source de l'humour, de la blague.
Ouais, voilà, à peu près.
Ou
être farcé.
Se faire avoir, non?
Oui. Donc, pourquoi le dindon? Parce que c'est une bonne question, quand même.
Bah parce que c'est lui... Enfin, on mangeait du dindon à l'époque, je pense.
Non, pas du tout. Alors, il avait une réputation de sottise et de vanité. Qui désignait du coup la moquerie. C'était vraiment, il représentait la moquerie en fait.
Ah bah oui, parce que ça roucoule un dindon, je crois.
Oui, mais non. Pas que. Du coup,
c'est pas ça, ça rigole
J'sais
pas.
Je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble.
Oui, à quoi ça ressemble.
À quoi ça ressemble. Il a un habit noir avec une sorte de cravate un peu comme ça, on peut imaginer rouge. Et donc les gens se moquaient de son allure.
Ok,
voilà. Ok.
Et donc, on plaçait des volailles sur une tôle surélevée et clôturée. Ça formait une sorte de scène. Et on chauffait le sol. Et donc, les dindons se mettaient à danser et à sautiller pour éviter de se brûler les pattes.
Oh, c'est de la maltraitance.
Voilà. Et ça a été supprimé en 1844. Voilà. Par le préfet de police.
Et pourquoi ils faisaient ça au juste?
Pour rigoler, ça les faisait rire à l'époque.
Pour divertir, je pense.
Voilà.
On précise juste qu'il ne faut pas donner de métal aux cochons ni de faire danser les
voilà.
Voilà.
Évitez s'il vous plaît.
De perles, on ne leur donne que
nous
ce qu'ils
doivent manger. Nous, à la maltraitance animale. Voilà.
RCN, l'âge bête.
Vous écoutez le best-of de l'âge bête. À présent, Louise va nous raconter la légende de l'Atlantide. Merci d'écouter RCN.
RCN, l'âge bête.
Alors oui, je vais vous parler d'un des plus grands mystères de l'histoire, d'une civilisation avancée et disparue en une nuit engloutie par les flots. L'Atlantide. Alors, mythe ou réalité? Aujourd'hui, je vais vous plonger dans cette légende fascinante qui, depuis des milliers d'années, alimente les rêves et les théories. À savoir que tout commence avec Platon, qui est un philosophe de la Grèce antique. Dans deux de ses dialogues, Timée et Critica, il décrit une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Donc l'Atlantique aurait été un empire prospère, puissant et technologiquement avancé. Ses habitants descendants du dieu Poséidon auraient bâti une société idéale dans un monde de sagesse et de justice, mais peu à peu, l'orgueil et la corruption les auraient gagnés, et pour les punir, les dieux auraient déclenché une catastrophe soudaine et en une seule nuit, l'Atlantide fut engloutie sous les eaux, effacée de la surface de la Terre. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie ? Platon prétend que son récit repose sur des faits historiques transmis par des prêtres égyptiens à l'homme d'État athénien Solon. Mais aucun autre texte antique ne mentionne cette civilisation. De plus, les descriptions de Platon sont riches en détails, parfois trop parfaites pour être authentiques. Son récit ressemble à une fable philosophique, un avertissement sur les dangers et l'orgueil et la décadence. Mais il y a de grandes théories, comme toute légende. Il y a beaucoup de chercheurs et d'explorateurs et aventuriers qui sont partis à la recherche de l'Atlantide, dont notamment dans le film Disney que tout le monde connaît, je pense. Et donc, on pense que Platon s'est inspiré de la catastrophe de Myonème aux alentours de 1600 avant Jésus-Christ. Donc, c'est l'île de Satorien a été ravagée par une éruption volcanique gigantesque, détruisant toute la civilisation et provoquant un tsunami qui a touché la Crète. Donc, ce cataclysme aurait pu inspirer l'histoire de l'Atlantide. Certains situent l'Atlantide en plein océan au niveau des Açores. Alors, je ne sais pas du tout où c'est, je suis désolée. C'est un archipel portugais, selon eux, et ces îles seraient le vestige d'un continent submergé. D'autres pensent encore que c'est en Amérique, avant même la découverte du nouveau monde. Certains théoriciens ont pensé que l'Atlantide était en réalité un continent inconnu à l'ouest de l'Europe, donc l'Amérique. Une idée qui a influencé Christophe Colomb lui-même, de ce qu'on pense en tout cas. Et il y a une autre hypothèse plus récente qui suggère que l'Atlantide aurait été un ancien territoire, aujourd'hui recouvert par la glace. Selon cette théorie, l'Antarctique aurait jadis été un climat tempéré avec un basculement de la croûte terrestre qui l'enverrait au pôle sud. Du coup, ça reste une légende, donc il y a plein de théories, mais tout le monde la cherche désespérément. Il n'y a aucune preuve formelle de l'existence de l'Atlantide, elle n'a jamais été trouvée, pour l'instant en tout cas. Et pour la plupart des historiens, il s'agit avant tout d'un récit inventé par Platon, un conte philosophique destiné à illustrer la montée et la chute d'une civilisation. Mais l'idée qu'un continent perdu, d'une civilisation disparue sous les eaux, continue de hanter notre imagination collective, comme je l'ai dit, on trouve plein d'histoires sur l'Atlantide, notamment Disney. Dans les jeux vidéo aussi, dans la littérature. Enfin, je pense qu'il y a moyen, si vous voulez vous intéresser oui. avec des histoires, de trouver...
Ça a été réinventé pour c'est s'adapter.
Ça. Mais c'est super intéressant, ouais. Surtout on en parle beaucoup, on entend beaucoup cette histoire, ça. Mais on ne sait jamais si c'est vraiment vrai ou si c'était faux.
Mais on espère pouvoir percer le mystère. Donc, Atlantide, mythe ou réalité. On n'a pas la réponse pour l'instant, mais une chose est sûre, cette légende, elle ne sombrera jamais dans l'oubli.
D'accord. Moi, j'en connaissais pas du tout.
Peut-être qu'avec les eaux au pôle en Antarctique qui fondent, on verra l'Atlantide.
Ouais, c'est intéressant.
Si, ouais, on l'entend quand même assez beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais on entendait surtout dans les histoires ou une ville, une civilisation.
T'aurais des histoires sur, par exemple
Tu sais, genre, il y a des dieux grecs qui habitaient dans l'Atlantide, par exemple, ouais, le dieu de l'eau, là.
C'est les enfants.
Poséidon, il habiterait...
Ah ouais, ça, les noms-là, je vois, mais je connaissais pas le lieu, quoi.
RCN, l'âge bête.
Dans un instant sur RCN, on se fait le quiz de culture générale. On revient dans un instant.
Y'a plus d'amants, y'a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est tu me tenais la main.
Bête sur RCN.
Merci d'écouter RCN en ce mercredi après-midi. Vous écoutez le best-of de l'âge bête, puisque toute l'équipe du lycée est en vacances cette semaine. Et à cette heure-ci, comme toutes les semaines, c'est l'heure du quiz de culture générale avec Antonin.
RCN, l'âge bête.
Donc déjà, je vais commencer par quelques questions.
Ouais.
Et ensuite, je vous proposerai quelques thèmes et vous pourrez choisir.
Eh bah, ben, ça marche, on t'écoute.
Ok.
Alors, donc pour commencer, lequel de ces personnages faisait tourner les tables? Donc 1, Arthur Rimbaud. 2, Victor Hugo. 3, Stéphane Mallamé.
Oh. Arthur Rimbaud, moi je dirais.
Moi je dirais Stéphane.
Moi je sais pas, je dis pas.
Le dernier par élimination, peut-être. Tourner les tables ou les têtes?
Non, les tables. Donc pour ceux qui savent pas, faire tourner les tables concerne le spiritisme. Consiste à poser la main sur la table en espérant qu'elle bouge avec la force des esprits ou les forces mystiques, voilà. Et c'est une pratique populaire au 19e siècle, ça peut vous donner des indices.
Oula, dans les siècles, donc on serait plus sur Arthur.
Moi, je serais Rimbaud.
Je sais pas.
Moi, je serais sûrement Rimbaud.
Et ben, il s'agit de Victor Hugo.
Ah, bah voilà.
Ah.
Qui donc faisait tourner les tables.
C'est donc, pas très très connu de ça d'ailleurs.
Non, pas vraiment d'ailleurs, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est souvent assez caché.
Ouais.
Et d'ailleurs, tu vois, on le savait même pas alors que bon, Victor Hugo.
Ouais, c'est vrai.
Il est assez connu. Donc,
très très connu.
C'est finalement surprenant. Ensuite, deuxième question. Qui a dit la vie militaire exige un peu d'idées? 1, Balzac. 2, le général de Bigard. 3, De Gaulle.
Mais tu veux nous abattre, Georges. Là...
C'est possible.
De Gaulle, c'est
là, c'est difficile.
C'est...
Tu peux répéter la question, s'il te plaît?
Qui a dit la vie militaire exige un peu d'idées? Donc, soit Balzac, soit le général Bigard, soit De Gaulle. Donc, vous vous doutez bien du coup que cette phrase, elle est un peu critique de l'armée, hein, pour dire que l'armée ne demande pas forcément beaucoup de réflexion,
ouais,
et qu'il manque d'esprit critique. Voilà. Donc, c'est plus en compte de l'armée, on va dire.
Oh, ouais. Je sais pas, je dirais moi, général Bigard.
Pareil.
Je sais pas.
Je dirais pareil.
Moi, je dis, vu qu'il est général, allez hop.
Et ben, il s'agit de Balzac.
Parfait. Voilà. Pour l'instant, allez, c'est un sans faute. Franchement, on se débrouille bien.
C'est vrai.
Lucie, elle dit plus rien carrément. Genre, elle veut même pas se mouiller.
J'ai peur de répondre.
C'est carrément parfait.
Ne vous inquiétez pas, les questions faciles reviennent. Dans quel pays sont apparues les premières fusées? 1, en Chine. 2, aux États-Unis. 3, en URSS.
Les premiers.
URSS.
Je crois en URSS.
Ouais,
les premiers, c'est la Chine, je crois.
En fait, la question,
pas, en fait.
Enfin, la réponse n'est pas simple, mais la question est simple.
La question, c'est qui sont les premiers?
Dans quel pays sont apparues les premières fusées?
Après.
Ah, mais c'est pas qui l'a envoyé le premier.
Non, non, il n'y a pas une question d'envoyer. C'est vraiment qui a apparu.
C'est pour ça, apparu, je pense, URSS.
Moi, je dirais Chine quand même.
Ou États-Unis. Ah, je sais pas.
URSS, moi.
Moi, je prends.
On t'écoute. Dis-nous la réponse.
Donc, tu vois, vous êtes sûr de gagner. Puisqu'il y a un parti pour chaque. Non, il s'agit bien de la Chine, donc voilà.
Ouais,
ah, d'accord.
La Chine.
Donc c'est plus pour ce qui est construction, du coup, on voit, même actuellement. 6, n'importe quoi. Quatrième question. J'ai déjà passé au 6, il n'y a pas de 6 en plus.
Tu vas vite.
Où pratique-t-on le drop goal?
Le quoi?
Le drop goal.
C'est quoi déjà?
Dans quel sport, je veux dire?
Bah, c'est ce qu'on va chercher. T'as des propositions?
Déjà. À tout hasard, Noah peut-être?
Non, moi je connais pas.
Le drop ball? En fait,
ça me dit rien.
Bah, on va deviner.
C'est juste un mot des deux qui va vous embrouiller, mais au final, en fait, vous le savez. 1, au basketball. 2, au baseball. 3, au rugby.
Drop goal.
Basket. Non, j'aurais dit basket.
Non, baseball.
Ouais, peut-être, ouais, plutôt.
Donc, pour information, donc on parle bien d'un drop goal. Et en fait, le drop goal, c'est. On peut dire aussi drop couramment. Juste un drop.
Ah, basket,
c'est basket. Oui, non, j'étais raison. Basket,
bah, je dirais baseball quand même, mais je
serais sur basket.
Ah, c'est vrai que ça prête à confusion. Ben, en fait, non, c'est plus au rugby. Vous voyez, cette technique, en fait, qui consiste à lâcher le ballon des mains et à frapper au pied juste après son rebond au sol.
Ah, oui, je vois, moi.
Du coup, le but.
Ah, bah oui, dans le grand but avec des trucs blancs, des gros poteaux blancs.
Voilà, et en fait. Ça donne juste 2 points, mais du coup, en dernier recours, quand il y a 1 point et c'est hyper serré, il y a déjà eu des matchs mythiques avec des drops à la fin.
Oui,
ça change de résultat. Donc,
okay,
voilà, et ça fait juste 2 points. Donc,
je n'avais jamais entendu parler.
Ça fait que 2 points. Alors, t'as vu la distance qu'ils doivent mettre et tout ?
Ouais, mais y a, en fait, il y a des fois, comme ça se joue à peu, c'est plus bénéfique de faire des drops.
Après,
ouais.
Les poteaux, ils sont quand même larges.
Ah ouais, mais pour mais tirer assez rebond, fort,
oui.
Faut y aller.
Après, c'est leur métier, on va dire, oui, mais c'est sacrément compliqué. Je vous propose donc de passer au baccalauréat. Donc, je vais vous présenter trois catégories. Donc, je vous propose de faire soit les marques, soit les vêtements, soit les prénoms. Ce qui est peut-être plus agréable parce que c'est un peu la partie la plus facile.
Moi, je dirais les marques.
Ouais, les marques
ouais,
aussi.
Les marques.
Ok, de toute façon, on passera aux autres. Hein. C'est juste une question d'ordre. Les marques. Donc, donnez-moi une marque en A. Je ne me suis pas cassé la tête, en fait, là.
En A ?
En A.
Ah bah, Adidas.
Adidas.
Ah, Adidas, ouais.
Apple.
Atiz.
Ouais.
Apple, oui, c'est pas mal.
Apple.
Comment le faire deviner ça ?
Ah mais c'est un... Ah, je sais pas s'ils font la marque aussi. Parce que c'est une équipe de vélo, mais du coup, je pense qu'ils ont une marque, non ?
Oui.
Je sais pas.
Oui, vas-y, dis.
Ah, Arkea.
Arkea, oui.
Je pense qu'ils ont une marque aussi, du coup.
Oui. C'est une... Du coup, on dit Arkea, c'est Psyche. Mais en fait, c'est deux marques différentes, voilà, pour que vous sachiez.
Ouais, moi, j'en ai pas qui me vient.
Non, moi, en plus, j'en ai plus, là.
Sinon, je...
Je vais être l'idiot du village. Je vais dire Haribo.
Il y en fallait un qui dit ça.
En plus, il y a toujours quelqu'un qui dit ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est trop drôle. Maintenant, une marque en H.
H.
Ouais,
j'ai vraiment dit Haribo.
Haribo.
Ah, Haribo.
Je l'ai pas vu venir, celle-là.
En okay. H.
H.
Ah, mais il y avait Airbus aussi en A.
Ouais, mais de toute façon, on va en retrouver
Air
au
France.
Fur et à mesure, ça va être drôle.
Ah, en fait, quasiment toutes les compagnies.
En H.
Il y a un truc pour, tu vois, les pâtes feuilletées. Vous voyez au frigo.
Erta,
voilà.
Les pâtes feuilletées.
Je pensais même pas à ça.
Je pensais jamais qu'on allait ressortir les pâtes feuilletées.
Sinon.
Vous en voyez d'autres ?
On avait une marque de sport.
Une marque de sport en H ?
En fait, elle est pas très connue, elle est plus un peu ancienne. Ou en gros, il y a un losange dans un losange.
Un losange dans un losange.
Il s'agit de Umbro, vous connaissez ?
Ah, non, je connais,
moi,
pas.
Je connais
pas,
j'ai entendu, mais je pensais pas à ça.
Ok. Maintenant, troisième lettre en R.
R.
Bah, Renault.
Renault. Oui, les marques de voitures, ça aide. Hein. Vous avez sûrement remarqué, d'ailleurs.
Ouais.
R,
on
va chercher, R.
Ryanair.
C'est quoi ?
De toute façon, on est que sur les marques de voitures ou que sur les avions.
Je connaissais pas vraiment, c'est quoi ?
Une compagnie d'avion.
Compagnie d'avion, je crois.
Oui, c'est ça.
De toute façon, entre ça et les marques de voitures, c'est parfait.
Toujours.
Il y a quoi d'autre ?
Vous en avez pas d'autres ?
Non, ça me vient pas, là.
Non, j'en ai pas d'autres.
Maintenant, on va passer à la lettre S.
S.
Celle-là, ça devrait moins vous poser problème, je pense.
Samsung.
Samsung,
ouais,
oui.
Samsung. Sony.
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 Il y a quoi d'autre ?
Mince, non, je l'ai perdu. Si, une marque de voiture, quand même.
Skoda.
Skoda.
Oui, j'attendais pas celle-là.
comment elle s'appelle ?
Oui, avec le petit S, là.
Eh ben, ah, je vois, mais je sais plus.
Avec le petit S ? Ah.
C'est anglais, je crois. Ou États-Unis.
Anglais.
Site.
Site ?
Site.
Ah,
ouais. Ah, Seat.
Seat, ouais. Oh, ok, je sais pas le dire.
Il a dit site.
Ouais, au lieu de Seat. Aussi, hein.
N'est pas pitié.
Et il y avait Samsung. Non. Samsic.
Ah.
Samsic. Pas eu, en fait, parce qu'elle avait dit Arkea, donc Arkea, Samsic, voilà. Comme ça, on a fait les deux.
Et Samsung.
Et Samsung aussi, du coup.
Oui.
C'est deux trucs différents.
RCN, l'âge bête.
Dans un instant, pour terminer ce best-of de l'âge bête, comme promis, on s'écoute la chronique culinaire sur les plats typiques de chaque pays. Merci de nous écouter.
Et gentiment, faut qu'on parle gentiment. Et sentiment, faut qu'on parle sentiment. Ah, et compliment, tu donnes des frissons comme le piment. Tu viens de quel continent ? Faut que je fasse mes documents. Tu me fais des coulisses sombres. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Menamoré, yo menamoré. La vie d'Almosa t'est Mama, toi contre moi, ma mama. Moi contre toi, ma mama. Jusqu'à Rio. Menamoré, yo menamoré. La vie d'Almosa.
Anita, les villas, les bolidas, vivre à Santa Monica. Un mec qui joue de la guitare. Tu veux Napoli, Margarita. Tu veux qu'on passe la noche sous les étoiles. T'aimes trop faire ta loquita. Et le soir tu danses comme Anita. Ah, tu me fais des coulis sombrero. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ça. Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? Oh mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? M'enamoré, yo m'enamoré. La vida hermosa te daré. Mamma, toi contre moi, ma mamma. Moi contre toi, ma mamma. Jusqu'à Rio, oh, oh, oh.
RCN, l'âge bête.
Le best-of de l'âge bête, c'est presque déjà fini. Mais d'abord, je vous propose de parler gastronomie avec cette chronique de début mars.
RCN, l'âge bête.
Alors, on va faire un petit tour du monde avec les plats typiques. Donc, commençons par l'Asie. Est-ce que vous connaissez le plat typique du Japon, par exemple?
C'est des ramen.
Faut pas se tromper là, ouais. Sinon on va avoir
le
rabais.
C'est de la nourriture à base de riz et à base de poisson,
ouais,
d'eau et de poisson.
C'est beaucoup riz, riz et ouais, poisson,
riz, poisson. Poisson. Et il me semble
t'as
que
dit
c'est...
quoi, Tess?
Les sushis.
Ouais. Je voulais pas dire parce que j'hésitais
mais
entre
Japon. Mais moi aussi
Japon
j'étais pas
sûre,
mais
et...
oui. C'est japonais, mais est-ce que c'était le plat le plus typique?
Bah, ouais, je sais pas. Oui. Du coup, c'est un plat composé principalement de riz vinaigré, de poisson cru et parfois de légumes. C'est pas un plat simplement un repas, c'est un art vraiment au Japon. C'est
ouais,
tu
ouais.
manies
il y
le
en a,
sushi.
Il y en a il y en a plein de différentes sorties.
Ouais,
dans
ouais.
Surtout.
C'est pareil, il y a plein de cultures où par exemple on peut pas demander de la sauce quand on va au Japon parce que c'est très mal vu en fait. C'est à dire que le chef n'a pas réussi suffisamment bien.
Ah, c'est vrai.
De racheter de la sauce alors qu'aujourd'hui.
C'est vraiment une compétition de savoir faire des sushis.
Ouais. Mmh. Ouais, avec les feuilles, mmh. les algues, le riz, bien, surtout que ça s'écroule des fois, c'est super difficile.
Exactement. En Corée, par exemple, est-ce que vous connaissez le plat emblématique?
Je ne connaissais pas.
Non.
Corée.
Non.
Ça s'appelle le kimchi. Donc, c'est un accompagnement fermenté à base de choux, de radis et de piment.
Okay.
C'est un plat fait à partir. Enfin, qui fait partie intégrante de chaque repas, genre et sa préparation, elle est souvent un événement familial à l'automne, comme la choucroute en France, enfin dans l'Est en tout cas. Voilà. Passons maintenant à l'Amérique latine. Pour le Mexique.
Les faritas.
Les quesadillas.
Presque.
Ça. Les tortillas.
Presque. Un peu plus.
On a sorti tous les mots en as qu'on se connaît.
Les trucs avec du piment.
Il n'y a pas de as, c'est os. C'est tacos.
Burritos.
Les tacos.
Les tacos.
Ah ouais,
oui, les tacos.
Ouais, tacos, c'est ouais. super cool.
C'est, vraiment, c'est un petit paquet de bonheur garni de viande, de légumes, de salsa et de guacamole qui représente plus qu'un simple repas de rue là-bas.
Ouais.
C'est vraiment familial, une grande tablée avec tout ça.
T'en as même des végétariens d'ailleurs, j'avais étudié ça en espagnol.
Ouais, bah.
Qui peuvent mettre...
En
soi, tu peux mettre ce que tu veux.
En fait,
tu peux mettre ce que tu veux dedans.
C'est ça, c'est vraiment familial, tu mets tout et tu fais ton propre tacos. Mais ça se cuit pas comme les fast-food en France, les tacos, c'est vraiment. C'est
ah oui, c'est
une
complètement différent.
C'est plié en fait là-bas. Ouais. Et en Argentine, est-ce que vous connaissez?
Alors, Argentine, plutôt.
Ouais, moi j'aurais pas su hein, ça.
Non, je sais pas.
C'est l'alçado. En fait, c'est un barbecue traditionnel qui rassemble la famille, les amis et tout, avec des viandes grillées accompagnées de chimichurri à base de persil et d'ail en gros.
Alors maintenant, faisons un petit tour en Europe. Est-ce que vous connaissez le plat typique de la Pologne?
Je sais pas, ça doit être quelque chose avec du chou et des saucisses.
Ouais, de la choucroute,
je pense.
Non, c'est pas de la choucroute, c'est pas du tout à base de chou. Ça s'appelle les pierogi. C'est des petites ravioles farcies de viande, de pommes de terre, de fromage ou même de fruits.
De fruits, ouais, carrément.
Mais vraiment, mais c'est une dinguerie. Mais c'est servi vraiment dans tout le pays, c'est vraiment connu. Chaque région a sa propre version du plat, un peu comme partout. Chaque spécialité un peu varie en fonction.
Ouais.
Maintenant, passons à la Slovénie. Est-ce que vous connaissez? C'est vraiment un nom...
Non.
Là, on est un peu trop loin, je pense.
Ça s'appelle Idrija. Voilà. Il y a beaucoup de I et de J. Attends, c'est même pas fini. C'est Idrija Zlokrofi, mais vu que je sais pas le prononcer...
Ouais, on va s'arrêter à Idrija.
Voilà. C'est une spécialité vraiment méconnue, mais délicieuse. C'est des petites pâtes farcies de viande, un peu comme des raviolis, mais en fait, là, c'est une sauce de ragoût de viande, en fait, avec et tout. Et voilà, c'est vraiment typique des montagnes slovènes.
Ça donne trop envie.
Ouais, ça a l'air trop vraiment.
Là, on a de nouveau faim.
J'adore les raviolis en plus. Et au Portugal, est-ce que vous connaissez le nom ou pas? Ou
alors,
ça, c'est quoi?
C'est une sorte de petit pain et ils mettent plein de choses dedans. Je sais
non,
plus
moi j'aurais dit les pastéis.
Non, je sais pas ce que tu vas sortir.
Je crois que c'est des sortes de petits pains comme
ça. Non, c'est pas ça. C'est le bacalao avec un H entre le L et le O. C'est des morues salées en fait.
Des morues.
Ah, voilà.
Ça occupe vraiment la place centrale de la cuisine traditionnelle. C'est un poisson. Il est préparé de mille et une façons. Mais on dit qu'il existe 365 recettes pour le cuisinier, une par jour de l'année. Voilà, petite anecdote sur ça. Et voilà. Bon, après, on n'oublie pas la Belgique, le moule frites habituel, cuisiné de toutes les façons. Et je pense qu'on a fini sur
revisité par l'entièreté des pays.
Vraiment. Et voilà.
RCN, l'âge bête.
Le best-of de l'âge bête touche déjà à sa fin, mais vous nous retrouvez en direct dès la semaine prochaine de retour de vacances pour vous proposer de nouvelles chroniques. Passez une très belle fin d'après-midi sur RCN et à mercredi prochain, 14h en direct.